Philippe Solers, dans vos essais, vous avez beaucoup parlé de l'image du livre réduit dans le livre même et aussi de l'écriture comme sens dernier de tout le travail de la littérature. Je voudrais que vous nous expliquiez sur le Quichotte comment vous retrouvez ces coordonnées littéraires.
Eh bien, je pense que le point important à propos du Don Quichotte, c'est historiquement le passage, évidemment, du Moyen-Âge à ce qu'on a appelé depuis la modernité. Et là, nous avons un exemple précis. C'est d'un côté Dante, qui est le premier auteur à se mettre en scène dans son œuvre même et à traiter le livre comme sujet, et d'autre part, le Quichotte. Qu'est-ce qui change radicalement entre la Divine Comédie et le Don Quichotte ? D'un côté, nous avons un auteur qui se met en scène lui-même entre deux autres personnages, si on veut, c'est Virgile et Béatrice, et pour qui l'écriture du livre et le chemin qu'il parcourt dans ce livre culmine dans, on le sait, l'extase. De l'autre, nous avons au contraire Don Quichotte et Sancho, qui sont les figures symétriques, si on veut, de Dante et Virgile, et puis cette figure tout à fait parodique, inversée, qui est Dulcinée del Toboso, qui est le contraire même, évidemment, de Béatrice. Et le livre, qui récupère non plus la vision surnaturelle comme Dante, mais au contraire toutes les figures du monde comme écriture, c'est-à-dire qui se déplace entièrement dans une dimension horizontale, là où la Divine Comédie se déplaçait dans une dimension verticale, eh bien, il ne culmine pas, lui, dans l'extase, comme chez Dante, mais dans le retour à la raison, c'est-à-dire finalement à la mort. Là, nous avons donc déjà, tout de suite, une sorte de mise en miroir de deux livres, dont l'un serait de structure horizontale, le Quichotte, et de l'autre de structure verticale, ce serait Dante, et nous pouvons étudier à partir de là comment, justement, Cervantes traite l'écriture dans cette structure horizontale qu'on a appelée depuis réalisme. Eh bien, le Don Quichotte, justement, marque le moment où l'écriture, comme fiction, se donne un privilège et une autonomie absolue. C'est-à-dire que dès les premières lignes du Quichotte, « En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme », nous sentons que c'est le texte même qui dit « je », n'est-ce pas ? C'est très « no quiero acordarme », qui est-ce qui parle ? Est-ce que c'est Cervantes ? Mais il n'est pas présent dans son livre lui-même, il le sera plus tard. Et c'est donc l'écriture qui dit « je » tout de suite et qui décide et qui dispose des apparitions et de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'écriture est souveraine dès le début, dès la première ligne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle va disposer elle-même, l'écriture, du dédoublement qui est propre à toute écriture. Et dans le Quichotte, les figures de ce dédoublement, c'est la fiction et la réalité, c'est la vérité et l'erreur, c'est finalement la raison et la déraison, c'est-à-dire Don Quichotte et Sancho, mais aussi, au niveau du texte lui-même, au niveau littéral du texte, le Quichotte, c'est un texte arabe qui est transcrit, c'est une traduction, ça introduit dans la littérature ce niveau fondamental qui est celui de la traduction, n'est-ce pas ? Le Quichotte se donne lui-même comme une transcription d'un autre livre, etc. Donc nous avons là une dualité constante. Et l'effort de Cervantes est constant, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, pour provoquer à l'intérieur du Quichotte l'apparition du texte du Quichotte même, n'est-ce pas ? Ce qui est une figure très importante. Et pour montrer qu'en somme, donc Quichotte comme figure, comme personnage, sort entièrement des livres, il sort armé de pied en cap des livres, uniquement des livres, il ne se bat que contre des livres, au fond, qu'il ne tend à réfuter que des livres, comme Cervantes, n'est-ce pas ? Car le fait que Don Quichotte répète les romans de chevalerie, et qu'il est, dans le livre, celui qui semble être victime des livres, n'entraîne pas que ceux qui représentent dans le roman la réalité ou la raison ne soient pas eux-mêmes victimes d'un discours falsifié. L'erreur de Don Quichotte, qui est aussi apparente, aussi impossible que celle de prendre des moulins à vent pour des géants, qu'est-ce qu'elle entraîne, en fait ? Elle nous entraîne, au fond, à douter de notre réalité, justement. Si les moulins peuvent être pris pour des géants, c'est donc que cela est possible. C'est donc que les moulins ne sont pas tout à fait des moulins. C'est donc que toute une vie humaine peut être hallucination. Et que cette hallucination elle-même peut affecter celui pour qui le monde est figé dans son identité, comme Sancho. Et qui est peut-être plus fou, en définitive, que Don Quichotte. Et c'est ce doute profond jeté sur ce qui est folie ou raison, cette insinuation constante que seule l'écriture forme le fond de toutes les dualités, qui explique la fortune de ce livre comme mythe, certainement. Autrement dit, l'erreur de Don Quichotte dépend profondément de la vérité de Sancho. L'un n'est pas moins cause de l'autre, comme l'avait très bien vu Kafka, notamment, que l'autre de l'une. D'où une ambiguïté constante, c'est-à-dire que si Cervantes dénonce la littérature irréaliste des romans de chevalerie, du même coup, il dénonce le rationalisme étroit, l'humanisme prétentieux et le réalisme plat. Il écrit pour débarrasser l'humanité des mauvais livres, c'est lui qui le dit dans son prologue et dans sa conclusion, pour tuer les mauvais livres. Mais en même temps, il sera obligé d'allonger son livre et de tuer son héros dans le livre pour tuer l'imitation de son propre livre qui se sera produite pendant qu'il l'écrivait. Et là, on a un phénomène de débordement de fiction dans la réalité qui est extrêmement intéressant. D'autre part, s'il souligne que ne pas être victime des mauvais livres, c'est peut-être être victime de livres encore pires, c'est-à-dire des livres invisibles et incessamment actifs que sont par exemple les lieux communs. C'est ce que représente Sancho, qui est victime aussi des livres, qui n'ont pas de chevalerie, mais des livres de la bêtise, en quelque sorte. Donc, s'il montre un aliéné créé tel par ceux qui sont peut-être mille fois plus aliénés que lui, il montre au fond que l'écriture de la fiction dispose seule de tous les rôles possibles, et que, comme il le précise à la fin, seule la plume, en définitive, a parlé. Il y a ce passage étonnant où la plume prend la parole dans la conclusion pour dire « Pour moi seul est né Don Quichotte, et moi pour lui ».
En somme, nous pouvons dire qu'au niveau du livre, au niveau de l'écriture, il y a une dichotomie, celle de la réalité, telle qu'elle est énoncée par exemple par Sancho, et celle de la fiction. Mais la réalité elle-même, elle vient des livres de chevalerie, c'est-à-dire d'un autre niveau de la fiction. Tout ceci, toute cette dichotomie, elle est comprise dans le livre, puisque nous savons très bien que Cervantes trouve le Quichotte, le livre original, le premier livre, qui est un livre arabe. Donc Cervantes se donne comme traducteur. Dans les Ménines, nous savons aussi que Velázquez est en train de peindre le Ménine, précisément. Donc il y a un renvoi des miroirs. Cette dichotomie, ce dédoublement, et le fait que l'œuvre se trouve tout entière au centre de l'œuvre, répond à un problème du savoir de l'époque. Ce que je voudrais, maintenant que vous nous expliquiez, c'est si vous croyez que ce dédoublement est encore actuel, s'il est pertinent en somme.
Eh bien, je pense que, justement, il y a un changement fondamental. C'est-à-dire que ce dédoublement qui est, dans l'espace du XVIIe siècle, un dédoublement de la représentation, de la perception, un dédoublement d'opposition, en quelque sorte, et un dédoublement explicite, eh bien, ce dédoublement d'explicite, il va peut-être devenir maintenant implicite, justement. C'est-à-dire que là où on avait, avec le Quichotte, un dédoublement de l'auteur en deux figures antinomiques, en deux personnages antinomiques, qui représentent la raison et la déraison, justement à cause, comme le remarque très bien Foucault, par exemple, à cause du fait que cette différence entre la raison et la déraison est en train de se dénouer sous nos yeux dans le savoir moderne, ce dédoublement-là fait place à un dédoublement du langage lui-même, où ce n'est plus, si vous voulez, une contradiction qui est mise en scène, mais une sorte de recouvrement permanent, qui ne serait plus du type raison-déraison, mais conscient-inconscient, si on veut. Ce recouvrement tel que, à ce moment-là, l'homme et le monde ne sont plus distincts, et où l'opposition, par exemple, subjectivité-objectivité, qui est aussi centrale dans le Quichotte, s'effondre, ainsi que la distinction entre fiction et réalité, entre langage et chose. Donc, ce dédoublement sera très différent, et, par exemple, à partir du moment où Rimbaud assigne à la poésie et au poète le dérèglement long et passionné de tous les sens, et où il trouve là la ressource et l'énergie de son langage, comme toute la poésie moderne et comme toute la littérature moderne, on peut voir quelle est la figure anti-quichotesque qui se montre là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'hallucination devient, au même titre que la perception ou que la représentation, un domaine du langage, n'est-ce pas? Un domaine où vérité et erreur n'est plus la question. Mais c'est l'écriture elle-même qui devient l'exercice même de l'écrivain.